Il est 19h ici dans les locaux de RFI à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Diane Berger.
Bonjour ou bonsoir, selon votre position sur la planète, c'est RFI Soir, 3 heures d'informations, de reportages, d'analyses et de débats. Avec d'abord, dans une dizaine de minutes, Action d'Europe. À Budapest, le gouvernement d'extrême droite défend une loi qui pourrait menacer la survie des ONG, des médias indépendants et même de certaines entreprises. Il sera aussi question de la reprise en main du monde de la culture en Russie. Le pouvoir tente de faire passer sa vision du monde à travers les arts. Ensuite, à 19h30, heure de Paris, 17h30, temps universel, ce sera l'heure du débat du jour. Aujourd'hui, on s'interroge sur le maintien de l'ordre à la française. Peut-on sortir du tout répressif? Nos invités pour en parler, le sociologue Michel Kokoreff et Thierry Clerc, le secrétaire général du syndicat UNSA Police. À 18h, temps universel, le grand journal international de Christophe Paget. Il sera question notamment de ce crash d'avion meurtrier en Inde, un Boeing qui s'est écrasé dans une zone résidentielle. Peu après son décollage, les corps de 204 personnes ont été retrouvés. Une demi-heure plus tard, ce sera la première édition d'Afrique Soir, présentée par Sophie Pouzrat, avec un dossier consacré aux prisons de Wagner au Mali. Ensuite, à 19h, temps universel, le décryptage de Guillaume Ouattara. Ce soir, on se penche sur l'IA, l'intelligence artificielle. Sommes-nous tous devenus dépendants? Puis on terminera cette soirée d'information avec un grand reportage garanti sans IA, direction l'archipel des Tuvalu, dans l'océan Pacifique, menacé par le changement climatique. Voilà pour le programme de votre soirée, mais tout de suite, un nouveau journal avec Adrien Delgrange. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Diane, bonsoir à toutes et à tous.
L'avion aurait donc dû atterrir ce soir à Londres.
Venons-en pour commencer cette édition, Diane, à ce terrible accident aérien en Inde. De très nombreux morts. Un Boeing de la compagnie Air India s'est écrasé ce matin juste après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad, dans le nord-ouest du pays. Le récit en Inde de notre correspondante Léa Ojala.
À bord de l'appareil, un Boeing 787 Dreamliner, se trouvaient 169 ressortissants indiens, 53 britanniques, un canadien et 7 portugais. L'avion, qui devait atterrir à Londres à 18h25, s'est écrasé peu après son décollage. Très rapidement après le départ, le vol a lancé un appel de détresse avant de perdre le contact avec le contrôle aérien. C'est le premier accident grave de ce modèle. L'aviateur Boeing se dit prêt à apporter son soutien à Air India. Sur les images, on voit l'avion perdre en altitude petit à petit, train d'atterrissage toujours sorti, puis une explosion sourde et un panache de fumée qui s'élève dans le ciel. L'avion s'est écrasé sur une résidence étudiante de l'université de médecine d'Ahmedabad. Des équipes médicales sont dépêchées sur place. Le premier ministre indien Narendra Modi a réagi sur les réseaux sociaux, se disant abasourdi et profondément attristé. Cet accident brise le cœur au-delà des mots. La présidente indienne Droupadi Murmu a elle aussi exprimé son émotion, qualifiant le crash de catastrophe bouleversante. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Léa Ojal, New Delhi. RFI.
La France se dit prête à envoyer son aide en Inde et des enquêteurs américains annoncent déjà se rendre sur place pour prêter main forte aux autorités indiennes. Le nucléaire iranien, l'Iran défie les États-Unis avant de nouveaux pourparlers prévus dimanche. Téhéran affirme ouvrir un nouveau site d'enrichissement d'uranium dans un lieu dit sûr. Inquiétude des Occidentaux, dont la France, Christophe Lemoine, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.
On a pris note avec beaucoup de préoccupation des déclarations de l'Iran concernant une augmentation considérable de ses capacités d'enrichissement et notamment de l'établissement d'une nouvelle infrastructure pour ce faire. Donc nous condamnons fermement ces annonces qui sont quand même le signe d'une poursuite assumée de l'escalade nucléaire de l'Iran et on exhorte l'Iran à revenir sur ces mesures et à revenir dans le cadre de la négociation. Sur le point plus spécifique du SNABAC, la mise en œuvre de cette clause de l'accord de garantie généralisée de l'Iran, c'est une obligation distincte du JCPOA et de la résolution 2231. Les Européens, enfin, à savoir les Allemands, les Britanniques et la France, ont été clairs avec les Iraniens. Faute d'accord satisfaisant d'ici la fin de l'été, nous pourrons considérer le déclenchement du snapback. Mais encore une fois, on est dans un cadre qui, en termes de calendrier, devient extrêmement contraint, puisque vous savez que la date butoir est au mois d'octobre.
Le porte-parole du Quai d'Orsay, enfin, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a adopté aujourd'hui une résolution qui accuse Téhéran de manquer à ses obligations en matière d'activité nucléaire. Et puis nous retiendrons aussi les propos du président américain Donald Trump à ce sujet, déclare qu'Israël pourrait frapper les installations nucléaires de l'Iran, mais que Téhéran pourrait éviter le conflit en cédant plus de terrain dans les négociations avec Washington. Fin de citation. Il voulait participer à une marche internationale pour Gaza. Au départ de l'Égypte, 200 militants pro-palestiniens ont été interpellés par la police égyptienne. Plusieurs dizaines de participants sont soit actuellement retenus, expulsés ou interrogés au Caire. Des descentes de police ont également eu lieu dans plusieurs hôtels du centre de la capitale égyptienne où des membres des délégations de la marche mondiale pour Gaza séjournaient. Pour beaucoup des marcheurs, ces agissements des autorités égyptiennes envoient un message clair. En bloquant cette initiative, l'Égypte montre qu'elle n'est pas sincèrement engagée pour la levée du blocus à Gaza imposé par Israël. S'opposer à cette marche, c'est s'opposer à la paix. C'est ce que dénonce Alexis de Soif. Il est le vice-président de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains.
Nous avons reçu des informations comme quoi il y aurait des arrestations au Caire, que les téléphones sont confisqués, que des personnes sont arrêtées et expulsées, remises dans des avions. Visiblement, les autorités israéliennes font pression sur les autorités égyptiennes pour empêcher les marcheurs de se rassembler au Caire et de se retrouver ensuite à Al-Arish, qui se trouve à 50 km de Rafah. Le but était de rejoindre Al-Arish à Rafah à pied à partir de demain. Voilà, alors nous verrons lors de l'arrivée au Caire ce qu'il en est. Dans la mesure où nous avons demandé l'autorisation à l'ambassade égyptienne il y a une dizaine de jours et que nous avons demandé ensuite un visa que nous avons obtenu, je serais extrêmement surpris négativement de me voir arrêté et expulsé alors qu'ils m'ont accordé un visa.
Le vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains au téléphone avec Alice Froussard. En Europe, nouveau coup dur pour le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Le numéro 3 de son parti, le PSOE, Santos Cerdán, a annoncé sa démission aujourd'hui. Il démissionne après sa mise en cause dans une affaire de corruption présumée qui empoisonne depuis des mois le chef du gouvernement espagnol. La Nouvelle-Calédonie, où le leader indépendantiste kanak Christian Théin retrouve la liberté. Christian Théin en détention provisoire depuis un an dans l'enquête sur les émeute mortelle en Nouvelle-Calédonie au printemps 2024 a été libérée aujourd'hui par la Cour d'appel de Paris. Et puis en France, le gouvernement a annoncé aujourd'hui la dissolution du groupe d'extrême droite Lyon Populaire, mais aussi de la Jeune Garde, un mouvement antifasciste dont le porte-parole est le député LFI Raphaël Arnaud. Fin juin 2024, 8 membres de la Jeune Garde ont été mis en examen. Dissolution fortement contestée, Charlotte Urien-Tomaca.
Ne rien laisser passer, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur dans un post sur X pour justifier la dissolution du groupement. Dès le 29 avril, Bruno Retailleau avait engagé la procédure, reprochant à la Jeune Garde, je cite, de provoquer des agissements violents contre les personnes, provocation bien souvent suivie des faits. Ce matin, en compte-rendu du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement justifie cette dissolution, Sophie Primas.
C'est le signe de la volonté du Premier ministre et bien sûr du ministre de l'Intérieur d'interdire tous les regroupements, tous les rassemblements qui mènent à la violence, qui prônent la violence dans le combat politique.
Une analyse totalement réfutée par les Insoumis qui rappelle que la Jeune Garde a été créée face à la montée de la violence de l'ultra-droite à la fin des années 2010. Thomas Porte, député LFI.
Comme amène la preuve de la violence de la Jeune Garde, quelles sont les actions violentes de la Jeune Garde ? Quelles sont les militantes et les militants de la Jeune Garde condamnés pour des actions violentes ? Est-ce qu'il y a une seule procédure en cours ? Est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée ? Est-ce qu'il y a une seule personne qui a été condamnée ? Est-ce que le gouvernement est venu amener un élément de la Jeune Garde par rapport à des actions violentes ? Je ne crois pas.
La Jeune Garde a annoncé qu'elle portera un recours devant le Conseil d'État.
RFI Soir, la suite sans plus tarder avec toute l'équipe d'Accent d'Europe. Ici à Paris, il va bientôt être 19h10.